alaykoum wa rahmatullah. Il est 20h17, vous êtes à l'émission La Prophétie, donc émission préparée par l'association Rencontre et Dialogue, donc avec Pastel FM 99.4. Les coordonnées, le 03 20 73 59 00. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices qui sont habitués à nous retrouver tous les vendredis depuis plus de 10 ans maintenant. Alors ce soir, une émission donc avec Tayeb Chouirel. Salam alaikum Tayeb. Et Oussama qui m'accompagnera.
Salam alaikum.
Oussama. Et voilà. Farid à la technique. Hamza juste derrière. On va faire, avant de commencer notre émission, puis travailler sur la thématique. Ce soir, tu vas nous parler de Hassan Basri. On va faire un petit point. C'est vrai qu'il y a une émission juste avant qui parlait de la situation en Palestine, et c'est vrai que bon, l'actualité prend beaucoup de place, mais Inch'Allah, on va relayer les informations. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça fait déjà 20 jours, 3 semaines, que la bande de Gaza est bombardée tout le temps. On parle de 1133 morts, plus de 5000 blessés, plus les dommages collatéraux, c'est-à-dire même si un cessez-le-feu se profile, il y aura, et on le sait, de nombreux morts qui suivront, de par les armes utilisées, des armes non conventionnelles. On parlait de bombes, pratiquement des bombes à fragmentation avec des mini-bombes atomiques. Enfin bref, vraiment, qui font des dégâts très 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 considérables avec malheureusement des cancers qui risquent de suivre. Donc il faudra à mon avis rester vigilant. Tout à l'heure, il y a eu, enfin, alhamdoulilah, les personnes se mobilisent. Hein. C'est vrai que dès le départ, nous, ça fait 3 semaines, en tout cas, que sur les ondes de Pastel FM et un peu plus, enfin, sur la question de la Palestine, ça fait de nombreuses années qu'on essaie de tenir au courant les auditeurs. On essaie de relayer l'information au mieux parce que les médias, en tout cas, ne font pas, à mon sens, leur travail. S'il n'y avait pas eu, en tout cas, la mobilisation de citoyens français, je pense qu'aux informations, vous ne verrez rien. Rien ne se dirait, rien ne se ferait. Oussama, peut-être que tu veux.
Effectivement, je te rejoins parfaitement. Alhamdoulilah, il y a encore quelques espaces de liberté où on peut s'exprimer et transmettre des informations. Donc, à cet égard-là, on vous invite tous à rester mobilisés. Alhamdoulilah, la semaine dernière, vous étiez très nombreux à nous rejoindre à Lille pour une grande manifestation. Les massacres continuent. Donc tant qu'il y aura des massacres, on sera toujours dans la rue et croyez-moi que la mobilisation ça marche parce que en France on commence à avoir quelques réactions, certes encore un peu timides, mais alhamdoulilah, grâce à notre mobilisation, les politiques commencent à se bouger, hein, et même si aujourd'hui ils parlent beaucoup de la question humanitaire, c'est déjà bien. Sur la question politique, il n'y a pas encore réellement de prise de position qui condamne l'armée sioniste, mais au moins sur la question humanitaire, il y a des initiatives qui sont prises. Il y a un groupe de députés qui s'apprête à partir dans la bande de Gaza pour voir ce qui s'y passe. Mais en tout cas, nous ici, on continue d'agir, et c'est pour ça qu'on vous invite tous à une manifestation, donc une grande manifestation ce dimanche 18 janvier. Le rendez-vous, c'est à 11h devant le métro Azem. Donc venez aussi nombreux que la semaine dernière et ramenez avec vous tous votre famille, vos voisins, vos collègues de travail. Donc rendez-vous dimanche 11h métro Azem pour une manifestation de soutien au peuple palestinien et pour demander bien sûr la et du massacre.
En rappelant que la semaine dernière, la manifestation sur les rues de Lille, vraiment, magnifique, alhamdoulilah, il y a eu vraiment une mobilisation. Selon les organisateurs, 20 000 personnes se sont mobilisées.
Effectivement.
Selon les chiffres de la police, c'était 10 000.
Mais les chiffres de la police, toujours moins. On parle aussi d'un chiffre selon les organisateurs, de 500 000 personnes qui se sont rassemblées en France, et au niveau médiatique, 100 000 personnes. Nous, en tout cas, on sait que, alhamdoulilah, les gens se mobilisent. Et je voudrais aussi rajouter une chose. Tu parlais tout d'heure que ça fait quoi, 18 jours maintenant que les massacres ont commencé? 18-20 jours.
20 jours.
Donc il faut savoir que ça fait la résistance palestinienne, donc des résistants du Hamas, ça fait l'armée la plus forte, si on peut parler d'armée, la plus forte des pays arabes. Jamais quand Israël a attaqué, dans le temps, une armée arabe a autant résisté que la résistance à Gaza. Donc c'est déjà une première victoire. Ça, il y a peu de personnes qui le savent, mais sachez que c'est la résistance à Gaza qui a réussi à résister le plus longtemps à des bombardements israéliens. Alhamdoulilah, grâce à votre mobilisation, à votre doua. Tout à l'heure, j'ai fait Jumu'ah à la mosquée de l'île sud. On a eu la visite d'un grand chir. Il nous disait que, il nous rappelait l'importance des invocations et comment elles se ressentaient sur le terrain.
On se rappelle. Tayeb, je sais que il y a un texte de religion, en tout cas, ils ont fait un texte oppositionnel. Enfin, si tu veux éventuellement nous en parler, puis avoir aussi un peu ton point de vue sur la question palestinienne.
Alors, sur cette question-là, je crois que personne ne peut rester insensible, quelle que soit l'approche qu'on pouvait avoir par le passé de ce problème, de ce conflit, quelle que soit la sensibilité que l'on pouvait avoir, que l'on soit d'un camp ou d'un autre, je crois que face à ce qu'on voit, face à ce qui se passe, ce qui doit tous nous animer, c'est le souci d'abord de justice, le souci de vérité et le souci de préserver les vies humaines. Et ça, ça doit être au-delà de tous les clivages. Et évidemment que lorsqu'on est sensibilisé à la cause palestinienne, eh bien, on est plus touché. Mais je crois que, comme notre ami vient de le souligner, il commence à y avoir une vraie prise de conscience, même chez ceux qui, auparavant, donc avant le 27 décembre, n'étaient pas forcément sensibles à la cause palestinienne. Pourquoi ? Parce que cette agression est de l'ordre de la barbarie, il faut bien le dire, je crois qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Et la disproportion par rapport aux motifs invoqués, aux causes invoquées, est incroyable. Et de toute façon, je crois vraiment qu'on n'a jamais de bonne raison d'être barbare. Or, cette agression est barbare, il n'y a pas d'autre mot. Alors, on voudrait nous faire croire qu'il s'agit de représailles face à des choses qui sont passées, face aux attaques du Hamas, etc. Non, encore une fois, quels que soient les événements qui ont pu se passer, quand on voit la situation humanitaire à Gaza, quand on voit donc ce que subissent tous les jours les habitants de ce qu'il faut appeler une prison à ciel ouvert, parce que ce n'est pas autre chose que cela, puisqu'ils sont enfermés dans cette bande de 30 km sur 10 km, sans pouvoir en sortir, sans pouvoir recevoir le minimum vital même pour survivre. Je crois que voilà, n'importe quel citoyen, n'importe quel homme dont le cœur est encore vivant, est touché par ce qui se passe, au-delà même de l'analyse d'une situation. Hein. Voilà. Moi, c'est vraiment mon sentiment. Et je suis content de voir que il y a de plus en plus de gens venant de tous bords et incluant même des gens de confession juive qui prennent conscience la situation tragique et de la nécessité de faire quelque chose de durable. Maintenant, il faut effectivement passer à quelque chose de durable. Alors, dans ce grand malheur que vit donc le peuple palestinien depuis le 27 décembre, il y a au moins cette lueur d'espoir-là que puisse naître dans la conscience des opinions publiques, des différentes opinions publiques des différents pays du monde, en Orient comme en Occident, d'une nécessité d'un traitement rapide et durable de la question. Et j'ai reçu cet après-midi un très beau document qui a été signé hier par les représentants au niveau de la région, des principales religions, des principaux cultes donc présents, c'est-à-dire donc le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, le bouddhisme et l'islam. Et ils se sont donc réunis hier, donc jeudi 15, au Palais Rivour à Lille, pour écrire une déclaration commune, pour exprimer quel est le point de vue, disons, des religions sur ce qui se passe et quels espoirs les religions portent. Parce qu'on a souvent laissé entendre, notamment sur certains médias, que c'est une question religieuse, que c'est un conflit religieux. On sait très bien que c'est faux, c'est un conflit politique avant tout. Et justement, cette déclaration commune, donc, de l'archevêque de Lille, de représentants de l'Église orthodoxe russe, de l'Église réformée de Lille, de la communauté juive de Lille et du Conseil régional du culte musulman, Armal Asfar. Cette déclaration commune, je crois, eh bien, a, tout au moins au niveau de la région, pour effet de montrer par les faits, par les actes, que, au contraire, quand on se situe sur le terrain de la religion, une entente est possible, une vraie fraternité même est possible. Alors je vais vous lire ce document. Proche-Orient, les confessions religieuses de notre région parlent d'une même voix. Nous, représentants des confessions religieuses de notre région, bouddhistes, catholiques, orthodoxes, protestantes, juives et musulmanes, nous sommes rassemblés ce jeudi 15 janvier au palais Riour à Lille, pour nous unir dans un même temps de prière pour la paix entre les peuples du Proche-Orient. Nous exprimons notre vive émotion et nous condamnons la violence qui touche depuis trop longtemps les populations civiles, israéliennes et palestiniennes, et qui entrave l'instauration d'une paix juste et durable entre les peuples. Nous appelons à l'arrêt immédiat des combats pour aboutir à une paix définitive au Proche-Orient. Nous condamnons tous les actes racistes et antisémites qui ne font qu'exacerber les tensions dans notre pays. Nous tenons à rappeler les relations d'amitié déjà anciennes que nous avons nouées et nous insistons sur le dialogue régulier que nous avons instauré dans le strict respect des croyances et des positions de l'autre. Nous en appelons solennellement, dans cette douloureuse période, à l'esprit d'écoute, de dialogue et de respect mutuel pour que le vivre ensemble soit plus que jamais le credo des Français de toute confession et de toute opinion dans notre pays. Soucieux de construire un avenir où chacun pourra vivre et s'épanouir librement dans l'écoute et le respect des autres, nous appelons à développer dès aujourd'hui, de multiples manières, toutes les initiatives d'éducation à la paix et à la connaissance mutuelle, afin de rompre la logique des armes et de la violence qui entraîne toujours plus de violence. Dans ce sens, nous voulons souligner le travail de nombreux groupes partout dans le monde et dans notre pays, qui sont déjà engagés dans cette démarche, et nous en faire, nous aussi, les artisans. Voilà, donc cette déclaration va dans le sens d'autres déclarations qui ont été faites, évidemment, dans d'autres régions, et même au niveau national. Mais montre cette chose précieuse, à savoir que on nous a dit très longtemps que la principale cause de guerre était souvent la religion, souvent de guerre de religion. Bien, si le XXe siècle nous a enseigné quelque chose, c'est bien cette chose-là, à savoir que les guerres les plus meurtrières n'ont pas été des guerres de religion au XXe siècle. Les deux guerres mondiales ne sont pas des guerres de religion, etc. Donc, cette idée très fausse et très dangereuse a fait son temps. Et je crois qu'il est plus que temps que dans l'esprit de tous ceux qui veulent penser vers le bien et aller vers le bien, qu'on puisse comprendre qu'au contraire, les religions sont une base sur laquelle la fraternité peut être construite. Alors, d'autres initiatives m'ont aussi touché et il faut leur rendre hommage, je crois. Il y a par exemple toutes les démarches de l'Union juive française pour la paix qui font un travail extrêmement courageux parce que ils bravent le rejet de leur propre communauté. Ils sont mis bien souvent à l'index par leur propre communauté et malgré cela, ils tiennent à défendre le droit des Palestiniens.
Et ils sont souvent au front, c'est souvent les premiers à dénoncer et à mener des actions.
Exactement, moi je voudrais leur rendre hommage ce soir en disant que vraiment leur travail est d'un grand courage. Et en même temps, il est très précieux aussi pour montrer que on peut tout à fait être juif et tenir à sa judaïté et en même temps être conscient du droit des Palestiniens et défendre sur le terrain concrètement le droit des Palestiniens. Et ça fait vraiment toujours plaisir de les voir effectivement en première ligne monter au créneau et dire ouvertement des vérités qui ne sont pas faciles à dire forcément dans leur communauté.
D'ailleurs, à Tel Aviv, chaque jour, des manifestations pour la paix ont lieu, puis enfin énormément de personnes de confession juive qui s'expriment et qui manifestent. Il y a même une photo à la Voix du Nord, avec, enfin, qui était quand même symbolique, hein, deux jeunes d'origine maghrébine et déjà palestinienne, avec un rabbin, Dieu, qui marchait. Non, mais pour la paix, et je trouve que symboliquement, c'était une belle photo, très, très, très parlant. Et pour dire simplement que c'est vrai que le conflit n'est pas religieux. C'est un conflit politique et ça il faut d'intérêt, donc il faut bien l'entendre.
Et ce qu'on sait encore moins, c'est que même les habitants de Sderot, là où tombent des roquettes, même eux, les habitants ont de leur propre initiative font tourner une pétition dans les habitants de la ville pour demander à leur gouvernement de cesser les bombardements sur Gaza. Même les habitants de Sderot, hein, qui soi-disant ont fait la guerre pour les protéger.
Barakallahu fik. Je te propose soit on fait une petite intro sur Hassan al-Basri, ou alors on s'opère une pause et c'est comme tu le souhaites.
Je pense qu'on peut faire. Hein.
Donc, une petite intro, c'est ça.
D'accord.
Je vais faire la pause.
Barakallahu.
D'abord simplement pour présenter qui est Hassan al-Basri.
Là.
Et puis pour présenter aussi l'axe dans lequel on va aborder son enseignement. Moi je proposerais de parler de Hassan al-Basri sous deux axes. Le premier, le détachement du monde. Et l'autre, qui est son corollaire, son complémentaire, l'engagement dans la Oumma. Hassan al-Basri est quelqu'un qui appartient à la génération des Tabi'in, c'est-à-dire la deuxième génération donc, des musulmans. Il a eu cette chance de naître à Médine. Il est né en 642, donc 10 ans après la mort du prophète, et d'être accueilli, encore jeune enfant, dans la maison de Umm Salama, qui était une des épouses du prophète. Et donc il a grandi dans cette ambiance prophétique, on pourrait dire, d'une demeure dans laquelle le prophète a vécu. Et très jeune, il a montré des qualités de sagesse et de discernement qui étonnaient son entourage. Et arrivé à l'âge adulte, il a choisi d'œuvrer pour l'unité de la Oumma face à ce qu'on appelait la fitna. La fitna, ça a été l'assassinat de Othman ibn Affan, donc le troisième calife de l'islam. Et cet assassinat a divisé la communauté entre ceux qui voulaient retrouver les assassins de Othman pour le venger, et puis ceux qui disaient remettons du calme dans la communauté, remettons de l'ordre dans la communauté, et puis quand l'ordre sera revenu, nous rechercherons les coupables. C'était la position de Ali. Et donc il y a eu cette fitna, cette division, cette fracture dans la communauté, et Hassan al-Basri a eu pour attitude de ne jamais mettre de l'huile sur le feu et de ne jamais accentuer les clivages en disant qu'un tel a raison et un tel a tort, mais de ramener l'esprit d'unité dans la communauté. Et par quels moyens il a voulu ramener cet esprit d'unité? Pas par une démarche politique, disons, mais par une démarche spirituelle. En enseignant et en insistant sur ce que on appelle les zohé, c'est-à-dire le détachement du monde. On verra tout à l'heure dans le détail certaines de ses paroles, mais pour lui, l'origine de la fitna vient du fait que les gens sont trop passionnels. Ils n'ont pas assez de recul par rapport aux événements. Ils ne savent pas prendre du recul par rapport aux événements, et le côté passionnel fait que ils enveniment la situation dans laquelle ils se trouvent. Le fait d'être passionnel nous rend aveugles, hein, disait Hassan al-Basri. Et donc, ramener l'unité dans la communauté était lié chez lui se manifester chez lui par un souci d'enseigner la réalité du Zohar, la réalité donc du détachement. Et on verra donc tout à l'heure quelques-unes de ses paroles sur ce détachement.
Barakallahu fik. On va s'opérer une petite pause, Farid, le temps que tu nous cales quelque chose. Il n'y a pas de problème. On se retrouve, Inch'Allah, d'ici quelques minutes. Vous restez sur les ondes de Pastel FM 99. De retour sur les ondes de Pastel FM, il est 20h45. petite excuse, parce que tout à l'heure, techniquement, on a eu un auditeur qui nous appelait, qui disait que t'entendais mal parler, mais je pense que ton micro n'était pas branché.
Donc j'espère qu'ils ont entendu au moins la lecture de la lettre et, ouais, et du contenu, hein, disons, voilà, de voilà. Cette.
Donc on s'en excuse. Et... Donc on va revenir, Inch'Allah, à Hassan al-Basri. Tu parlais de détachement,
là,
détachement
tout à
du monde.
Voilà. Donc en fait, Hassan al-Basri, je disais, hein, donc il a assisté à cette grande fitna, qui, à cette grande division, disons, de la communauté lors de l'assassinat de Othman ibn Affan. Et donc il a ressenti en son cœur que la meilleure façon pour lui de ramener l'unité était de dépassionner le débat et de dépassionner le cœur des gens, de leur enseigner à avoir un certain recul par rapport aux événements, de leur enseigner à avoir une certaine maîtrise de leur âme et de ne pas plonger tête baissée dans la première division qui se présente. Alors il ne voulait pas dire que ce qui s'était passé était pas grave du tout. Il savait qu'il y avait quelque chose de très grave. Mais face à cet événement gravissime, comment réagir ? Et tout son enseignement et pourrait se résumer à un commentaire d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un célèbre hadith dans lequel un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala lahu ya rasulullah dullani ala 'amalin idha 'amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas fa qala izhad fi ad-dunya يحبك الله وإزهد فيما عند الناس يحبك الناس. Un homme est venu voir le prophète, il lui a dit enseigne-moi quelque chose, un comportement qui fera que je serai aimé par Dieu et que je serai aimé par les hommes. Et le prophète lui a répondu إزهد في الدنيا, sois détaché dans le monde et Dieu t'aimera, et sois détaché de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Et donc le terme utilisé par le prophète c'est izhed, détache-toi. Le zohed, on le traduit parfois par l'ascèse ou par le renoncement, c'est effectivement le détachement par rapport aux choses. C'est pas le fait de fuir les choses, c'est le fait de ne pas s'y attacher et de ne pas se laisser dominer du coup par les choses. C'est d'être possesseur de ces choses et ne pas être possédé par elles. Et donc cet important hadith, puisqu'il montre la voie pour être aimé et par Dieu et par les hommes, insiste donc sur le détachement. On a demandé donc à Hassan al-Basri qu'est-ce que le détachement, et les gens qui étaient autour de lui ont répondu avant même qu'il ait le temps de répondre, ma huwa az-zuhd. Et les gens ont répondu, certains ont répondu, c'est le fait d'avoir des vêtements très, très simples, très humbles. D'autres ont dit, c'est le fait de manger très peu. Chacun est venu avec une réponse et avec ce qui lui semblait représenter le détachement du monde. Et lui, il a répondu, lestum fi shay'in, vous n'y êtes pas du tout, ce n'est pas ça du tout. Et il a dit, l'homme détaché, c'est celui qui, lorsqu'il voit quelqu'un, se dit « celui-là est meilleur que moi ». Et donc, en disant cela, il montre la voie pour réaliser le détachement, c'est l'humilité. C'est le fait de chasser l'orgueil de son cœur. Et en enseignant cela, il montre la chose suivante, à savoir que lorsque nous sommes trop attachés à des choses, à des événements, à des idées, à un courant, à un parti, et qu'on devient passionnel, c'est bien souvent parce qu'il y a une sorte d'orgueil caché, qui ne dit pas son nom et qui est là derrière. On dit se battre pour des idées, on dit se battre pour un idéal, et en fait, bien souvent, on se bat pour soi-même, pour sa propre gloire, disons. Et c'est pour cela qu'il a donné comme définition du véritable ascète, du véritable homme détaché, le fait de considérer quiconque comme meilleur que soi. Alors, Il a donc commencé à enseigner d'abord à un petit groupe autour de lui, puis dans des khotab, dans des sermons à Médine, et puis très rapidement, comme ses sermons étaient très éloquents, il avait un don non seulement pour dire des phrases dont le contenu est très fort, mais aussi pour le choix des mots, pour les sonorités, hein, pour ce qu'on appelle as-saj'a. Le saj'a, c'est le fait de parler en prose rimée, c'est-à-dire que ça n'est pas de la poésie, mais il y a des rimes qui reviennent à chaque fois dans son discours. Et il avait un don parler pendant des heures, disons, en prose rimée, ce qui est tout à fait étonnant. Et il a laissé un certain nombre de paroles qui ont marqué tous les savants qui ont suivi. Un de ceux qui ont écrit des traités de mystique musulmane, c'est Abu Talib al-Makki, qui a vécu quelques 200 ans après, 250 ans après Hassan al-Basri, et il disait sur Hassan al-Basri la chose suivante: Al-Hassan rahimahullah huwa imamuna fi hadha al-ilm alladhi natakallamu bihi atharahu naqfu wa sabilahu natba' wa min mishkatihi nastadi'. Hassan est notre imam dans cette science. Et en parlant de cette science, il désigne la mystique ici. Ce sont ces traces que nous suivons, et c'est sur sa voie que nous avançons, et c'est de son enseignement que nous puisons. Alors lui-même n'a rien écrit, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas encore de textes et de livres. Hein. Mais il a laissé donc un certain nombre de paroles qui sont transmises à l'oral et qui sont venues nourrir les tout premiers traités de mystique. Et parmi, disons, les hadith qui ont le plus inspiré Hassan al-Basri, il y en a un autre, tout à l'heure j'ai cité celui du détachement, il y en a un autre qui est sur la fitna. عن أبي هريرة سيأتي على الناس زمان يخير فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. D'après Abu Huraira, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un temps où les hommes devront choisir entre l'impuissance et la perversion. Que celui d'entre vous qui atteint cette époque choisisse l'impuissance contre la perversion. Rawahu al-Hakim, hadithun sahih. C'est rapporté donc par al-Hakim qui le déclare authentique, ce hadith. Hassan al-Basri a médité ce hadith et d'autres hein, qui parlent de l'attitude à avoir lors des fitnas. Et dans ce hadith, donc, le prophète nous parle d'un temps qui va venir. Alors, il n'a pas dit si ce sera dans quelques générations ou dans quelques siècles ou dans quelques millénaires. Il a dit que ce temps va venir. Donc, chaque croyant, et Hassan al-Basri, considérait que lui-même était concerné déjà à son époque, où il faudra nécessairement choisir entre l'impuissance, c'est-à-dire le fait que tu ne peux rien faire, et la perversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, quand on agit de manière irréfléchie, quand on agit sans sagesse et sans science, on empire la situation et on ne fait que qu'empirer le mal qui est déjà existant. Et Hassan al-Basri était tout à fait conscient que autour de lui, les gens qui voulaient régler le problème de l'assassinat de Othman avaient de bons motifs de le faire. Mais il était conscient aussi qu'il le faisait sans science, sans sagesse. Et de manière passionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, quel type de passion à l'époque? À l'époque, c'était l'esprit tribal, l'esprit passionnel lié à la tribu. C'est-à-dire que Othman ibn Affan était du clan de Aïcha, l'épouse du prophète, il faisait partie donc de la même famille élargie hein, à l'époque. Hein, les tribus étaient organisées par clan à l'intérieur d'une même tribu. Et donc tous les gens qui étaient de son clan se disaient, oui, on ne veut rien faire parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de leur clan. Il n'est pas, il est simplement du nôtre, et notre clan, bon, on le considère comme quelque chose de négligeable, etc., etc. Donc cet esprit tribal a pris le dessus sur l'esprit communautaire. Et là encore, on voit donc l'origine donc de la passion. Et il médite ce hadith donc, que je viens de traduire, et il se dit, donc dans une telle situation, la meilleure attitude est de ne pas prendre parti et de chercher à réunir. Entre le fait de ne pas pouvoir ramener, de ne pas pouvoir trouver, disons, les assassins de Othman, et entre le fait d'ajouter à la confusion et à la division, il vaut mieux choisir l'impuissance à trouver les assassins de Othman, comme l'y invitait d'ailleurs donc ce hadith. Alors Hassan est très conscient aussi que ce qu'il disait là, beaucoup de gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Et c'est seulement avec les années et vers la fin de sa vie que on a commencé à se rendre compte de l'importance de ce qu'il enseignait et de la sagesse qui se dégageait de ses paroles. Il a mis beaucoup de temps avant de faire prendre conscience aux gens que il n'y a pas de honte à être dans le ajz, à être dans l'incapacité d'améliorer les choses, parce que la honte n'est pas d'être capable d'améliorer. La honte, elle est d'empirer les choses et de participer à la fitna et de mettre de l'huile sur le feu. Et donc il a dû travailler, ce qu'on dirait aujourd'hui, travailler sur les mentalités. Il a dû travailler donc à faire évoluer les mentalités, à faire en sorte que dans l'esprit tribal arabe, ne pas être capable de résoudre un problème, c'est très déshonorant. Il faut être, quand on est un homme viril, un homme capable, eh bien on prend la situation en main et on change les choses par la force des bras. C'était un peu comme ça que les choses étaient vues à l'époque. Donc il savait bien que son appel au calme, son appel à la sagesse, ne serait pas entendu du premier coup. Mais ce qui est admirable chez lui, c'est que il a eu cette patience. Il a eu cette patience de se dire, certes, un discours de sagesse au début fait 2, 3, 4, 5 adhérents. Mais sur le temps, c'est la sagesse qui l'emporte. Et c'est la passion qui recule. Alors, pour aider ceux qui voulaient suivre son enseignement à avancer dans cette voie de sagesse, dans cette voie de purification intérieure, il a dit un certain nombre donc de paroles, dont la parole suivante. Quand les gens lisaient le verset Al-Hakumut Takathur, c'est un verset donc de la sourate Al-Takathur, une des dernières sourates du Coran, qui dit en substance, l'accumulation des biens matériels vous distrait. Quand les gens donc lisaient ce verset, puisque c'est une petite sourate de la fin du Coran, les gens la lisent très souvent dans leurs prières, ils leur demandaient de quoi est-ce que cela vous distrait ? Amma al-hakum. Et les gens ne savaient pas forcément répondre. De quoi est-ce que l'accumulation des biens vous distrait ? Puisque la sourate ne répond pas, elle dit, vous êtes distrait par l'accumulation des biens, mais de quoi sommes-nous distraits ? Eh bien, il leur répondait, Al-hakumu andar al-khulud, wa janna la tabid. Hada wallahi fadah al-qawm, wa hataka al-sitr, wa abda al-iwar. L'accumulation des biens vous distrait de la demeure éternelle, d'un paradis qui est fait pour l'éternité. Et je le jure par Dieu, ce verset nous dénonce, nous dévoile et met à nu nos défauts. Et donc, ce verset donc très connu et très lu, donc comme je le disais, selon Hassan al-Basri, n'était pas suffisamment médité, n'était pas suffisamment pris en compte dans son message. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que si on en vient à être passionnel, si on en vient même à s'entretuer pour telle ou telle cause, c'est aussi parce qu'on a perdu de vue que le sens de la vie est la préparation de l'au-delà. le sens de notre vie et donc le retour vers Dieu et de préparer ce retour intérieur vers Dieu. Et quand on oublie donc cette perspective, eh bien les conflits humains, les oppositions humaines deviennent prennent une grande importance. On leur accorde une importance qui est énorme. Alors que Hassan al-Basri voulait les amener à relativiser ces choses-là. Certes, il y a des choses qui se passent mal. Certes, il y a des choses qui sont intolérables. Certes, il y a des choses contre lesquelles il faut lutter. Mais à partir d'une sérénité intérieure, à partir d'un détachement intérieur. Et donc, l'accumulation des biens, ce n'est pas seulement le fait de vouloir s'enrichir personnellement. L'accumulation dont parle ce verset, c'est toute forme de puissance, même si c'est une puissance qui est immatérielle. Le pouvoir n'est pas forcément toujours matériel. L'amour du pouvoir n'est pas forcément l'amour de l'argent. C'est une espèce d'ivresse intérieure qui prend l'homme, même s'il peut être beaucoup moins riche qu'un entrepreneur, par exemple. Il y a des gens qui n'abandonneront jamais leur poste de responsabilité ou de pouvoir, même si on leur propose plus d'argent dans l'industrie ou dans le commerce, etc. Ça prouve bien que l'attrait qu'a l'homme pour le pouvoir, il est un peu différent que l'attrait qu'a l'homme pour l'argent, par exemple. Le pouvoir est une séduction qui est un peu différente, disons. Et Hassan al-Basri donc veut leur souligner que ce verset parle de toutes les séductions du monde, de toutes les séductions liées à ce monde. Alors donc il n'était pas le seul, hein, avant lui, Ibn al-Abbas par exemple l'avait déjà fait. Il a montré comment à partir d'un verset on pouvait tirer toute une éducation spirituelle, on pouvait tirer toute une pédagogie d'éducation intérieure, et que un verset n'est pas fait pour que l'on passe dessus en le lisant rapidement, mais il disait qu'il est fait pour être médité, et il parlait souvent de tafakkur. La méditation, méditer le sens de ce que nous lisons. Cette approche, dont je disais, hein, a mis du temps avant de prendre corps et de prendre de l'espace, disons, dans l'ensemble des différents courants qui traversaient la communauté. Et il a vécu assez longtemps, puisqu'il est mort en 728. Donc il a vécu encore très longtemps après cette période de fitna. Il a vécu encore près de 70 ans presque après la mort de Ali. Oui. Et à aucun moment il ne s'est dit qu'il faut s'opposer physiquement à telle ou telle difficulté que la communauté en rencontre, mais s'y opposer par l'éducation. Par un travail intérieur d'éducation.
Barakallahu fik pour ces enseignements. Hein, c'est vrai que ça fait écho, quoi. Ça fait écho surtout en ce moment, je veux dire,
bien sûr.
Au niveau de la situation internationale.
Mais bien sûr.
On disait tout à l'heure en aparté que, effectivement, devant une injustice, on a tendance, et le monde et les gens en tout cas ont vraiment tendance à s'émouvoir, être vraiment dans l'émotionnel et agir à ce moment-là. Donc on voit, machallah, une mobilisation extraordinaire à travers des manifestations, à travers des dons, à travers pas mal d'actions pour essayer d'améliorer en tout cas le sort des autres. Malheureusement, quand le feu est éteint, les énergies en tout cas s'estompent. Donc nous on a cessé en tout cas de rappeler, je fais écho, je le fais volontairement, que la mobilisation des uns et des autres, elle doit continuer après. C'est un effort de tous les jours et c'est vraiment une éducation à avoir et à enseigner autour de soi, parce que c'est vrai que ce que tu rappelais tout à l'heure, tu disais que c'était un travail d'éducation, et je me dis autour de lui, ça devait être difficile parce qu'on sait
bien
que les Arabes de l'époque, c'est vraiment des sanguins.
Donc
devant la mort, il y a une réaction immédiate et on y va, c'est un clan contre un autre. Et c'était souvent ça. Donc Et il a fallu vraiment avoir beaucoup de patience. Alors, j'imagine effectivement que les gens, avec le temps, se sont dit, mais finalement, c'était sûrement, et c'est la meilleure solution à prendre, être raisonnable, se détacher, et ensuite le tirer le meilleur enseignement quant à l'action et entrevoir en tout cas. On va s'opérer une petite pause. Je sais que Farid est en direct au téléphone. On va se retrouver, Inch'Allah, d'ici quelques minutes. Je vois Hamza qui est à la technique. Je rappelle en tout cas les coordonnées 0320 73 59 00. Et si vous avez des suggestions, en tout cas, quant à l'émission ou à poser des questions, vous pouvez le faire aussi par email. C'est très simple, ard5962@gmail.com. Voilà, ard5962@gmail.com. Donc vous pouvez poser vos questions à Taïeb si vous le souhaitez, ou alors en direct, faites-le, Inch'Allah vous répondra en tout cas par email ou alors par émission interposée. Je vois Farid qui me fait signe. Pour la pause ou pour une question? Pour la pause. Donc on va prendre la pause. On se retrouve, Inch'Allah, d'ici quelques minutes. Barakallahu fikoum. Donc vous êtes bien à l'émission La Prophétie. Donc il est 20h18 en direct, bien sûr, avec professeur Taïeb Chouaroufs, qui nous parlait de Hassan al-Basri et ses enseignements. On va, Inch'Allah, vous donner quelques informations.
Quelques informations pour les auditrices et auditeurs qui nous ont rejoints. Donc on continue la mobilisation pour notre soutien au peuple palestinien et pour l'arrêt des massacres. On vous invite à venir manifester avec un ensemble d'associations ce dimanche, le dimanche 18 janvier. Le rendez-vous est à 11h au métro Oisem. Donc comme la semaine dernière, s'il vous plaît, continuez vos efforts de mobilisation. Les massacres continuent, on est aujourd'hui plus de 1100 morts. Les bombardements s'intensifient au vu d'un cessez-le-feu. Ils respectaient déjà pas l'être humain, encore pire aujourd'hui. On apprend que on bombarde même des cimetières, des hôpitaux, des écoles. Des armes non conventionnelles sont utilisées. Donc vraiment, le combat n'est pas terminé, le combat de masse n'est pas terminé. On vous appelle vraiment à nous rejoindre ce dimanche à 11h au métro Oisem et à continuer les actions chez vous, personnelles, donc vos invocations, vos boycotts des produits qui financent l'armée terroriste sioniste israélienne. Et donc vraiment, dimanche, Inch'Allah, aussi nombreux que samedi dernier.
Une autre aussi annonce à Roubaix cette fois-ci, donc la date, l'information, je vais essayer de le dire au mieux. Donc c'est une vente et collecte d'argent. Farid, s'il m'écoute, il me corrigera Inch'Allah si je fais des erreurs. C'est 22 rue Ampère à Roubaix, c'est de 13h30 à 17h et c'est quel jour? C'est demain. C'était pas précisé sur le papier. Donc c'est l'association Culture et Génération. Voilà, j'ai pas le casque. Tu peux parler Hamza en même temps si tu le souhaites. Ouais, c'est bon. Oui, voilà. Donc c'est un week-end de solidarité et au cœur de la Palestine. Hein. C'est du 23 au 25 janvier. C'est à Saint-Lenoble. Donc avec un tournoi de football en salle à partir de 19h. Repas, projection d'un film. Si vous voulez coordonner, c'est le 06 18 72 36 10. 06 18 72 36 10 si vous voulez des informations. Il y aura une conférence, un dialogue aussi interreligieux. Donc ça se passe à Saint-Lenoble. Mm-hmm. Saint-Lenoble, c'est près de Douai, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le 23 janvier. Donc voilà.
Là, il y a pas mal de mobilisation et donc on vous invite surtout à participer, mais le plus important, c'est à ne pas relâcher vos efforts, c'est-à-dire à continuer sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment important de le rappeler et allez user de votre intelligence, de votre imagination, quelle que soit l'action qui est en faveur de la solidarité, faites-la. Hamza me disait à l'instant, ne serait-ce qu'une vente de gâteaux, ça fonctionne. Moi, je peux vous dire que je travaille au lycée Averroès à Lille, et spontanément, après les massacres, les élèves se sont réunis, et avec leurs moyens qu'ils ont, ils ont décidé d'agir. Ils ont fait une vente de gâteaux, donc là, ça fait 3 semaines qu'ils vendent des gâteaux après ça, le jour noir, et là, ils ont récolté plus de 1500 euros. Avec voilà, c'est, et elles font des petits gâteaux, et puis voilà, ça fonctionne. Donc c'est une initiative de jeunes, donc tout le monde est capable de se mobiliser, chacun selon ses moyens. Mais le plus important, c'est que tout le monde agisse, et sur le long terme, bien sûr.
D'ailleurs, à Tourcoing, au centre social de la Bourgogne, donc c'est une ZUP, hein, c'est le 25, une bourse aux vêtements. Et les profits iront pour la Palestine.
C'est encore une très bonne idée de solidarité, et l'action est très utile. Et une autre manière, quelque chose aussi de très utile, c'est l'information pour continuer à être mobilisé. On vous invite à venir vous informer sur le conflit pour savoir ce qui se passe en Palestine, comprendre l'histoire pour mieux agir. On vous annonce que la semaine prochaine, le 30, sur les mêmes ondes de Pastel FM, il y aura une conférence d'un très grand journaliste, quelqu'un de très très expérimenté. Il y a 25 ans de journalisme, et c'est quelqu'un qui une fois par mois, dans l'émission que Hamza anime avec moi-même les premiers samedis du mois, fait une chronique, s'appelle René Navas. C'est un journaliste, Hamza, tu me confirmes, qui a travaillé 25 ans à l'AFP, un grand journaliste international, qui a malheureusement été viré de son travail pour ses prises de position contre la politique sioniste israélienne. Donc la semaine prochaine, il sera avec nous, il va faire un déplacement pour jusque Roubaix, et donc une conférence, normalement ce sera à la maison des associations. Donc on vous donnera plus d'informations tout à l'heure, mais c'est confirmé, c'est sûr, et cette conférence sera retransmise en direct. Vraiment, je vous invite à être à l'écoute. C'est quelqu'un qui a une analyse très pertinente et beaucoup d'expérience, et donc soyez à l'écoute. La semaine prochaine, vous comprendrez les dessous de ce conflit là et quotidiennement, il y a des sites internet qui vous donnent pas mal d'informations. On fait la promo d'un site vraiment qui est très très bien fait, avec des sources très sérieuses et toutes prouvées. Le site de, c'est un journaliste belge qui est venu il y a 15 jours à la mosquée de l'île Sud pour une conférence avec Tariq Ramadan, qui est retransmis d'ailleurs en direct sur les ondes de Pastel FM. C'est Michel Colomb, donc c'est michelcolomb.com. Donc là, c'est voilà, vous allez avoir dessus la liste des entreprises à boycotter, et le rapport que ces entreprises ont avec l'État d'Israël et ce qu'elles financent. Parce que souvent, c'est qu'on les dit, il faut boycotter telle personne. Moi, là, je reçois des SMS, oui, telle entreprise a dit, je vais donner mes fonds. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est vérifiable, mais en tout cas, allez sur le site de Michel Colomb, vous allez savoir en détail les sommes que ces entreprises ont versées pour construire des colonies en Palestine occupée. Donc, Michel Colomb. Et effectivement, comme Hamza Mouchouf Alouaï, il se passe quelque chose dans l'opinion publique. Le boycott, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça a déjà fonctionné pour la, souvenez-vous, ceux qui ont un petit regard sur l'histoire, pour l'Afrique du Sud. Et Inch'Allah, aujourd'hui, ça marchera pour l'État d'Israël. Ça commence à marcher, je sais, dans les pays, dans quelques pays arabes, notamment en Égypte, où il y a une forte mobilisation pour boycotter McDonald's. Ils ont dû complètement fermer plusieurs chaînes. Ils ont même aussi essayé de refaire des McDonald's sous une autre enseigne. Et alhamdoulilah, les gens ne sont pas si bêtes que ça. Ils ont continué de boycotter. Ils perdent beaucoup d'argent aujourd'hui. Dans les médias, on va vous dire que c'est faux, ça ne marche pas. On va vous faire croire que ça ne sert à rien, que vous êtes tout seul dans votre coin à boycotter. Ça marche, le boycott, ça marche et c'est efficace. C'est là, aujourd'hui, si l'armée israélienne est si puissante, c'est parce que derrière il y a des finances. Alors on va les attaquer là où ça fait mal. À la place du cœur, ils ont un portefeuille, donc on va attaquer leur portefeuille, inchallah, pour de notre manière, avec les moyens ici qu'on a légal d'être résistant au même titre que nos frères palestiniens.
Je savais qu'Israël ne peut pas tenir sans le soutien financier des pays étrangers.
C'est pour ça qu'Inch'Allah, elle va à sa fin, parce que les moyens financiers sont quelque chose de matériel qu'on peut détruire, alors que la résistance palestinienne, son arme principale, c'est la foi. Et comme disait un certain, vous pourrez tuer tant de personnes que vous voulez, mais aller chercher la foi, c'est quelque chose d'immatériel que vous ne pouvez pas. Il n'y a aucune bombe aujourd'hui qui est capable d'atteindre la foi.
Barakallahu fik. Taïeb, on va revenir à Hassan Basri.
Bah justement, oui, ça nous ramène justement à la foi.
C'est une belle transition parce que c'est moi la deuxième partie de ton exposé sur l'engagement.
Exactement, puisque pour Hassan Basri, le plus important est ce qui ne se voit pas. Le plus important est ce qui est à l'intérieur et qui, à partir de l'intérieur, fait rayonner vers l'extérieur. Et donc je te disais qu'il a commencé donc à, très progressivement à enseigner à contre-courant de ce qui se passait à son époque. Et petit à petit, il a eu une très grande audience et une grande écoute de ses contemporains, jusqu'au calife lui-même, donc Omar ibn Abdelaziz, qu'on appelle parfois le cinquième calife bien guidé. Vous savez qu'on appelle Al-Khulafa al-Rashidun, les califes bien guidés, les quatre premiers califes. Mais on l'appelle souvent le cinquième calife bien guidé parce qu'il a eu un comportement de justice, un comportement de sagesse, un comportement d'honnêteté exemplaire. Pour quelqu'un qui a cette fonction, qui a cette responsabilité, on sait que c'est quelque chose de très très rare. Et il a eu cette humilité aussi de demander conseil à Hassan al-Basri, de lui demander d'être un peu son guide spirituel. Et il avait donc cette humilité d'aller vers lui pour lui dire, voilà, que me conseilles-tu dans tel et tel domaine. Et je vais vous lire un petit passage d'une longue lettre qu'il lui a écrite et que par bonheur on possède encore aujourd'hui. La lettre Hassan al-Basri au calife Omar ibn Abdelaziz existe encore. Elle est dans les sources arabes, elle ne demande qu'à être traduite. Je vous en ai traduit un petit passage, le début. D'ailleurs, dans mon livre sur les enseignements spirituels du prophète, je cite un long passage de cette lettre qui invite le calife à ne pas se laisser séduire par les aspects attrayants du monde. Ici, c'est un autre passage que je vais vous citer sur la méditation. Il lui dit « Sache que la méditation, at-tafakkur, guide vers le bien et elle incite à agir pour le bien. Sache encore que regretter un mal commis incite à s'en écarter. Les choses éphémères, fussent-elles nombreuses, ne sauraient égaler en valeur ce qui demeure à jamais, quand bien même cela serait difficile à atteindre. » D'abord, il lui dit que la base de tout, c'est la méditation. Il faut, avant d'agir, méditer. Avant de se lancer dans un projet, dans une décision, avant de prendre une décision qui va engager le devenir de toute la communauté, il faut d'abord méditer, réfléchir. Et puis, il lui dit, c'est seulement comme ça qu'on peut espérer trouver l'accès vers le bien. On peut espérer trouver une solution qui amène au bien. Et il lui donne ensuite une attitude intérieure à avoir et lui dit que le fait de regretter un mal, ça n'est pas inutile. Même si c'est passé, même si le mal est fait, même si on ne peut pas réparer ce qui a été fait. Pourquoi ? Parce que le fait de regretter profondément l'erreur commise ne permet peut-être pas de rétablir ce qui a été gâché, mais permet au moins de ne plus revenir sur la faute, de ne pas revenir aux mêmes erreurs. Et ensuite, il va lui donner une balance de jugement. Il lui dit que les choses éphémères, même si elles sont nombreuses, même si elles sont en grande quantité, ne seront jamais égalées les choses qui demeurent, même si elles sont très rares et difficiles à atteindre. C'est-à-dire que dans toute société, on a tendance à sacrifier le qualitatif au quantitatif. Dans toute société, on a tendance à sacrifier ce qui est visible à ce qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que quand on a affaire à un groupe d'hommes de centaines de milliers de personnes, voire de plusieurs millions de personnes, eh bien, on a du mal à se situer dans le qualitatif. On se dit, pour satisfaire les gens, il faut faire des choses visibles. Il faut faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la démagogie. Il faut devenir donc démagogue. Et lui, il lui rappelle qu'attention, c'est un grand piège que de croire que on peut, en montrant des choses, en étant dans le démonstratif, qu'on pourrait compenser ou suppléer à l'absence de qualitatif. C'est le qualitatif qui compte, même s'il n'est pas très visible, même s'il n'est pas tape à l'œil, même s'il n'en jette pas, il n'en met pas plein la vue aux gens. C'est le qualitatif qui compte. Et pour un homme politique, c'est très difficile d'entendre ça. Pour un homme politique, c'est très difficile de s'entendre dire que les décisions que je dois prendre ne doivent pas amener à une gloire rapide et immédiate, mais doivent apporter des fruits sur le long terme. Et donc Hassan al-Basri, c'est bien qu'en lui disant cela, il va à l'encontre de la pratique politique commune. Il y a forcément un peu de démagogie dans toute pratique politique, Hassan al-Basri le sait. Mais il lui dit attention, puisque tu as accepté cette charge, et puisque tu es Amir al-Mu'minin, puisque le calife en islam, il est Amir al-Mu'minin. Il est avant tout Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants. Il est à la tête des croyants. Puisque tu as accepté cette responsabilité, cette responsabilité joint le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle. En islam, elle est liée. Il n'y a pas cette séparation donc très nette. Donc il lui dit attention à ce que l'exercice du pouvoir temporel ne te fasse pas oublier ta responsabilité d'autorité spirituelle. Et donc à travers cet enseignement, non seulement il donne une recommandation bien sûr à Hassan al-Basri, mais au calife Omar ibn Abdelaziz, mais il donne aussi un conseil et une recommandation à chaque croyant, puisqu'on a tous, comme l'a dit le prophète, une responsabilité. Kullukum ra'in, vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables de votre troupeau, a dit le prophète. Donc responsable, ça peut être à une grande échelle ou à une très petite échelle, à l'échelle de la cellule familiale par exemple. Et dans chacune des situations dans laquelle le croyant donc est placé, il y a une façon d'exercer le pouvoir. Il y a une façon détachée d'exercer le pouvoir. Une façon détachée, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, certes, je suis responsable. J'ai une responsabilité par rapport à mes enfants. J'ai une responsabilité par rapport à mes salariés. J'ai une responsabilité par rapport à mes voisins, etc. Mais en même temps, cette responsabilité ne doit jamais m'amener à la tyrannie. Or, c'est un fait que dans la nature humaine, l'autorité a tendance à dériver en tyrannie. L'homme a tendance à devenir un tyran dès qu'il a un peu d'autorité.
C'est un peu puissant.
Exactement. Et c'est pour ça que le prophète, lors de son dernier sermon, ce qu'on appelle Khutbat al-Wada', le sermon d'adieu, il leur a dit « Je vous recommande le bon comportement envers vos épouses. » Et il l'a répété en justifiant, en disant car elles sont chez vous sous votre autorité, sous votre pouvoir, elles sont comme des prisonnières chez vous, entre guillemets, dans le sens où si vous êtes tyrannique, eh bien elles n'auront pas les moyens de sortir de votre tyrannie. Donc il a mis en garde contre cette tendance de l'âme de profiter d'une autorité pour maltraiter. Or, puisque l'âme de l'homme ne possède pas que des qualités, elle a une part de qualité et une part de défaut. Hein. On a souvent parlé ici d'ailleurs, notamment quand on a parlé de la purification de l'âme, on a bien approfondi ces deux parts que possède chaque être humain, parce que Dieu a créé l'âme avec une part de taqwa, une part de fujur. وَنَفْسٍ وَمَسَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc cette part de taqwa, cette part donc de piété, cette part de fujur, de perversité, nous la portons en nous. Maintenant, face à l'exercice du pouvoir, notre part de perversité se réveille et a un champ pour s'exprimer. Celui qui n'a aucune autorité, qui n'a aucun pouvoir, évidemment, sa perversité peut rester enfouie, peut rester dans l'ombre, disons. Et il peut croire qu'il n'est pas si mauvais que ça. Or, il se trouve que c'est sur le terrain, dans une situation concrète, que notre nature se révèle. On sait Par exemple, que ceux qui ont commis des atrocités durant certaines guerres, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, je pense aussi à la torture en Algérie, n'étaient pas forcément des monstres à la base. Et en tout cas, eux-mêmes ne se voyaient pas comme des monstres. Mais comment expliquer alors qu'ils ont commis des actes monstrueux ? Comment expliquer qu'ils ont pu aller jusqu'à l'abominable ? Alors qu'ils étaient des citoyens lambda, comme tout un chacun, citoyens qui pouvaient aider la vieille dame à traverser, citoyens qui pouvaient ramener les courses de ses voisins. Oui. Comment il est devenu un monstre en Algérie lors de la torture, par exemple ? Parce que la situation a réveillé cette part de Fujour, qui était évidemment déjà présente. Et donc, c'est cette mise en garde que fait Hassan al-Basri donc au calife en lui disant « Tu es particulièrement exposé, parce que tu es l'autorité suprême, et il n'y a personne au-dessus de toi pour te rappeler à l'ordre. Donc tu es particulièrement exposé à devenir tyrannique. » Sauf qu'il se trouve que, par bonheur, ce calife était très pieux et très humble, et que justement, s'il avait cette relation avec Hassan al-Basri, c'était parce qu'il avait conscience que dans l'exercice du pouvoir, on a besoin du conseil de l'autre, on a besoin du miroir de l'autre. Parce qu'à tout moment, on peut déraper, à tout moment, on peut dériver. Et déjà, pour le prophète lui-même, le Coran lui dit « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » Consulte tes compagnons lors des prises de décision. Parce que c'est quand même très fort comme ordre, puisqu'il est l'autorité suprême tout de même. Et malgré tout, il reçoit l'ordre de mettre en place al-mushawara, la consultation. De n'avoir aucune attitude tyrannique par rapport à ceux qui sont autour de lui, de savoir écouter, de savoir voir le bien qui vient donc de l'autre. On se rappelle tout à l'heure, Hassan al-Basri insistait sur le fait de se dire que l'autre peut être meilleur que moi. Et même si on ne peut pas dire qu'un compagnon est meilleur que le prophète, on peut malgré tout dire qu'il se peut que son idée soit meilleure que celle du prophète. Et c'est déjà arrivé, on le sait. Donc, cette recommandation de Hassan al-Basri, je disais qu'elle nous parle à nous tous, et qu'elle nous met en garde contre notre tyrannie potentielle. Et pour faire un lien avec l'actualité, ceux qui commettent ces atrocités donc en Palestine sont des êtres humains comme vous et comme moi à la base. C'est difficile
à concevoir,
et pourtant c'est un fait. Ce sont des êtres humains qui aiment leurs enfants, qui ont de l'amour pour leurs parents, et pourtant ils se comportent comme des bêtes, comme des animaux face à cette population palestinienne. Comment comprendre ça ? Parce que la situation réveille cette part animale qui est en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune qualité. Ça veut dire qu'ils sont entièrement dominés par l'animal qui est en eux, parce que la situation s'y prête. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. C'est qu'on n'est pas monstre en soi. On est potentiellement monstre. Et on le devient quand la situation s'y prête. Et sauf, évidemment, parce que ce n'est pas une fatalité, sauf pour celui qui a une démarche de purification de son âme. Mais quand on n'a pas de démarche de purification de son âme, on n'est pas meilleur qu'un autre. On est peut-être privilégié de ne pas avoir été mis à l'épreuve.
Exposé.
On n'a pas été exposé. Exactement. À. Et ça, c'est très important, parce que c'est facile de juger de l'extérieur. Mais c'est de l'intérieur que l'on prouve qui l'on est. Et si le Coran insiste pour dire que toute âme a reçu une part de perversité, c'est pour que nous en prenions conscience. Et pour nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas se dédouaner. On ne peut pas se dédouaner en disant ils commettent des atrocités au Rwanda, ils ont commis des atrocités en Tchétchénie, et aujourd'hui ils commettent des atrocités en Palestine. Ça n'est pas aussi simple que ça. C'est donc une prise de conscience de ce que l'homme est et du nécessaire travail sur soi. C'est pour ça que Hassan al-Basri ne cherche pas à rétablir une justice extérieure lors de la fitna, mais à éduquer. Et en éduquant, la justice va se faire. Et c'est pour cela que toute démarche, pour revenir à l'actualité, toute démarche qui vise à éduquer, toute démarche qui vise à rendre plus conscient est une démarche utile, même si elle est nécessairement sur le long terme. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi des démarches concrètes, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus que des quêtes soient faites qu'il y ait des envois humanitaires, etc. Mais ça veut dire que sur le long terme, ce qui portera des fruits, c'est un travail d'éducation intérieure, d'éducation à l'intérieur de la communauté, mais d'éducation aussi vers l'extérieur de la communauté. Quand on entend par exemple des témoignages ou des réactions de citoyens israéliens face à ce qui se passe à Gaza, ils vont dire que c'est effectivement triste qu'il y ait des familles qui meurent, qu'il y ait des enfants qui meurent, mais, et ensuite il y a un mais, et on oublie tout, mais il faut bien se défendre, mais nous sommes obligés de, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sensibles? Parce qu'ils vivent dans une sorte de psychose collective. Ils vivent dans une psychose entretenue, que on vous veut du mal, que vous êtes pourchassés partout, que vous n'avez aucune sécurité, et que il faut bien que nous vous défendions. Et donc, comme ils vivent dans cette psychose, le côté inhumain qu'ils portent en eux, eh bien, se réveille à l'encontre donc des Palestiniens. Ce n'est pas pour rien si toute religion insiste sur la purification de l'âme. Et dans toute religion, il y a des enseignements, des pratiques, des rites et des méthodes de purification. Purifier quoi, s'il n'y a rien à purifier? Pourquoi toutes les religions enseignent la purification? En commençant d'abord par la purification corporelle par les ablutions, et ensuite par la purification intérieure, par l'éducation spirituelle. C'est bien parce que l'homme en tant que tel a besoin de cette éducation. À un besoin impérieux. Et on peut comprendre donc que Hassan al-Basri, quelque part, il nous introduit au cœur même de l'enseignement religieux et spirituel en insistant sur le détachement du monde et sur l'engagement dans la Oumma. Alors, ça peut paraître paradoxal, quand on dit détachement du monde, certains peuvent comprendre, alors oui, ben on s'occupe que de soi, et puis on fait des retraites spirituelles, et puis on laisse le monde s'écrouler. Non.
On va à l'extérieur, dans une campagne.
Exactement, voilà. Alors, Hassan al-Basri a eu des périodes de retraite spirituelle, parce que c'est parfois nécessaire d'avoir des retraites où on peut justement se consacrer intérieurement, à la fois. Mais ça n'a jamais été pour lui une fuite du monde. Ça a été, au contraire, pour pouvoir revenir d'une meilleure façon encore, d'être encore plus utile aux autres. Et quelle est la plus grande utilité qu'être le conseiller spirituel du calife? Comment être plus utile à la Oumma que de faire en sorte que celui qui dirige la Oumma la dirige pour son bien? Donc, si on a encore des doutes sur le fait que le détachement du monde n'est pas une fuite des responsabilités, on a un exemple très frappant chez Hassan al-Basri. Alors, pareil pour l'imam al-Ghazali. Parfois, à la fin des projections du film que nous avons organisé, quand nous ouvrons le débat, il y a parfois des gens qui sont un peu gênés en se disant « Oui, mais quand même, il est parti, il a abandonné son poste d'enseignement à Bagdad et puis il est parti en retraite spirituelle pendant plusieurs années. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'occuper des problèmes de la communauté ?» Oui, mais on juge un arbre à ses fruits. Quand on regarde les fruits de ce qu'il a laissé, qui a laissé une marque aussi profonde que l'imam Ghazali dans la culture musulmane? C'est très rare. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on dit détachement? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit retraite spirituelle? On ne dit surtout pas fuite du monde. On dit fuite de l'illusion d'agir. Ça, par contre, oui. On dit que Ghazali a ressenti, comme Hassan al-Basri d'ailleurs, la nécessité qu'avant d'agir réellement et d'être vraiment utile, il faut une période de sevrage. Parce qu'en général, au départ, on n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. On réagit aux choses, on réagit aux événements, on est emporté par les événements. Du coup, on n'apporte rien de concret. Par contre, si on veut ne plus être dans la réaction, mais véritablement dans l'action, il faut une sorte de période de sevrage où on va accepter de plus être dans l'activisme. On va accepter que je ne suis pas indispensable au monde. Le monde ne s'écroule pas s'il n'existe pas. Le monde n'a pas besoin de moi pour exister. Car Dieu, de toute façon, a besoin de personne. Ouais, Al-Ghani, il est le riche. ou l'indépendant, on peut traduire d'une manière ou d'une autre, mais ça a toujours le sens qu'il n'est pas dans le besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Elle renie. Donc, il a, leur engagement dans la Ummah, que ce soit pour Hassan al-Basri ou que ce soit pour al-Ghazali, a donc cette spécificité qu'il est dans le détachement. Et qu'il est donc dans un recul intérieur. Et quand il s'engage dans une action, puisque Hassan al-Basri comme Razali se sont engagés dans des actions très profondes à la fin de leur vie et très importantes au niveau de la Ummah, c'était en ayant un cœur toujours dans le même état que le retrait spirituel. C'est-à-dire quand Razali revient au monde, il revient physiquement, il revient professionnellement, il revient au niveau de la da'wa, on pourrait dire, mais son cœur est toujours dans la khalwa, dans la retraite spirituelle, dans l'i'tikaf, on pourrait dire, dans cet état de présence avec Dieu. Alors si Hassan al-Basri a marqué autant, et on peut dire que son impact dans la communauté est beaucoup plus fort que celui de l'imam Ghazali, hein, par exemple. Hassan al-Basri est vraiment fait l'unanimité chez tous les ulama, de tous les madahib, de toutes les écoles juridiques, de toutes les tendances même. S'il a marqué autant, c'est parce qu'il a su revenir au cœur, disons, et pas se perdre dans des particularités. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné des tas de choses. On estime à 100 000, ce qui est énorme, 100 000 les personnes qui l'ont vu et qui ont rapporté une de ses paroles. C'est tout à fait énorme.
C'est énorme.
Mais comment ne pas se perdre
avec les moyens de communication de l'époque, hein,
voilà, exactement.
Donc il n'y a pas de voiture, pas d'internet, pas de téléphone, donc c'est vraiment que ce sont des personnes qui sont déplacées, l'ont vu, reparties.
100 000 personnes qui l'ont vu, entendu une parole de lui, qui ont transmis au moins une parole. Ça fait 100 000. Donc, il y a énormément de choses. Comment ne pas se perdre dans ces 100 000 enseignements? Comment retrouver le centre à partir duquel tout le reste va venir s'organiser? C'est ça qui est à la fois difficile et à la fois crucial, important. Revenir au centre et à partir du centre, pouvoir rayonner. Voilà, moi il me semble que ces grandes figures-là, quand on en parle, ça n'est pas simplement de l'histoire que l'on fait, ça n'est pas simplement de l'érudition ou pour le plaisir de connaître des noms de grands personnages, c'est aussi pour s'inspirer et comprendre que quand on revient au centre, eh bien on est véritablement dans ce que Dieu attend de nous. Il y a un hadith du prophète qui dit: sois sincère et peu d'actions te suffiront. Akhlis lillah yakfika al-qalil min al-amal. Sois sincère et peu d'actions te suffiront. Ça veut dire que certes il y a beaucoup de choses à faire, on pourrait faire beaucoup de choses, mais on risque de se perdre dans toutes les choses que l'on peut faire. Donc pour ne pas se perdre, soyons sincères, recherchons la sincérité, et le peu de choses qui seront faites avec sincérité apporteront des fruits qui peuvent être très grands. Hein, c'est ça, il me semble, le message de Hassan al-Basri.
Barakallahu fik. Pour ces enseignements, pour nous avoir en tout cas durant ces deux heures enseigné la vie de Hassan al-Basri, enfin on va dire de façon
un élément
très modeste, bien sûr,
sommaire, bien sûr,
de façon sommaire, mais voilà. En tout cas je pense que c'est une bonne entrée en matière pour celui qui ne connaissait pas, en tout cas,
avec ces deux thématiques là on peut en tirer beaucoup d'enseignements pour aujourd'hui. C'est ce qui était très bien, c'était les relations avec aujourd'hui, et moi ça m'a vraiment marqué cette distance qu'il faut avoir avec le pouvoir, parce que justement on a une nature entre guillemets tyrannique quand on est proche du pouvoir. Et c'est vrai, quand tu citais des exemples très 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 actuels, hein, et c'est vrai que nous ici parfois on se dit on est toujours en train de critiquer l'autre, regardez ce qu'ils font, ils gaspillent, ce sont des tyrans, mais parce que eux ils ont les moyens de... Mais est-ce que nous à notre échelle on n'est pas aussi tyrannique, tout simplement avec le peu de pouvoir qu'on a, comment on se comporte avec notre épouse, avec nos enfants, quand on prend des douches, l'eau qu'on gaspille. Si demain ces chefs d'État qui gaspillent des milliards, parce qu'ils ont des milliards à gaspiller, ils gaspillent ce pétrole, mais nous, à notre échelle, on gaspille aussi quand on jette la nourriture après un repas. Oui, c'est en fait il faut. Alhamdoulilah, c'est vraiment des enseignements que Hassan Basri nous a transmis qui sont essentiels à mon sens. Oui.
Et le fait aussi de ne pas diaboliser l'autre pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qu'il fait.
Pour ce qu'il fait, tout à fait. Pour ce qu'il fait.
Voilà, car on disait hein, effectivement, on réagit beaucoup, et le frère aussi, Tariq Ramadan. Nous le rappelle souvent lors de ces conférences, on est quand même une
nature très émotif.
Très émotif.
Une belle citation, on est plus dans la réaction que dans l'action.
Voilà, donc on réagit beaucoup, on a tendance à diaboliser. Ce que tu disais en tout cas tout à l'heure, c'est vrai que vu la situation, les soldats israéliens dans ce qu'il fait, complètement détaché en tout cas de l'affect en vue de la population palestinienne. Mais nous-mêmes, c'est vrai que dans des situations pareilles, avec une telle puissance, on dit à l'armée, la troisième armée la plus puissante au monde, avec la moyenne qu'elle a et par qui elle est aidée en tout cas, on serait peut-être pire dans cette situation. Et c'est vrai que s'il n'y a pas une éducation du cœur, confronté à ces mêmes situations, on peut être effectivement barbare.
Je vous raconte
très barbare et ça, il faut.
Une petite anecdote par rapport à ça pour illustrer tes propos. Il y a trois semaines, Sipi Levnik est venu rencontrer notre président de la République. Et avant, il y a tout un protocole. Donc, il y a des chefs de protocole qui viennent. Et on apprend qu'en fait, Sipi Levnik est végétarienne. Parce que là, justement, un tel respect pour les animaux et la nature. Vous voyez. J'ai aujourd'hui qu'elle a le pouvoir, ce qu'elle est capable de faire à nos frères palestiniens. Donc ça. Hamza me souffle dans le casque. On lui demandera de respecter les arbres millénaires qu'elle détruit en Palestine.
Barakallahu fikoum, il est 21h53. On va rappeler en tout cas les informations.
Ouais, les informations essentielles, tout aussi que cet exposé. Donc dimanche 18 janvier, donc après-demain, on se donne tous rendez-vous à 11h au métro Azem pour manifester pour l'arrêt des massacres et pour le soutien du peuple palestinien. Donc on vous demande de vous mobiliser, on se mobilisera inchallah tant que les massacres ne cesseront pas, et en même temps continuer vos actions chacun à son échelle, que ce soit des récoltes, vos invocations, vous informer. On vous rappelle hein, que la semaine prochaine inchallah de 19h à 21h à la maison des associations, donc c'est au centre-ville de Roubaix, une conférence qui sera donnée par le journaliste René Naba sur la question palestinienne, donc comprendre pour mieux agir. Voilà, comprendre pour mieux agir par la suite. Donc elle sera retransmise en direct pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à la maison des associations.
J'aimerais juste rajouter une petite chose, savoir que c'est vrai que il y a un déficit d'information flagrant hein, quand on regarde la plupart des médias généralistes ici en France. Il y a quand même deux médias qui sont accessibles à tous ceux qui le veulent et qui donnent une information vraiment de qualité. C'est d'abord Euronews, qui montre des images qu'on ne voit nulle part sur les grandes chaînes françaises, et c'est tout à leur honneur, vraiment, avec un traitement qui est très différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Et puis Ouma.com, qui fait un travail d'information qu'il faut saluer vraiment, par leur objectivité, par leur courage.
Plus qu'un travail d'information, c'est un travail d'analyse. Ils ont des articles très intéressants, très pertinents.
Avec objectivité, sans tomber dans la caricature, sans tomber dans l'excès non plus. Ils savent rester objectifs, disons. Et ça, c'est très précieux, vraiment. Et donc, je crois que c'est un média qu'il faut faire connaître. Faut faire connaître aussi à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller vers ce genre de médias, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni arabes ni musulmans, par exemple. Eux aussi profiteraient beaucoup, je crois, de pouvoir bénéficier de cette approche-là. Je crois qu'un des services qu'on peut rendre aussi à la cause palestinienne, c'est de faire connaître au plus grand nombre possible des sources d'informations claires et objectives. Et il ne faut pas hésiter donc autour de nous à faire connaître ces sources-là.
D'abord, il y a un très bon livre qui est de Michel Collomb, on en parlait tout à l'heure, justement qui parle des médias mensonges. Mm-hmm. Donc dans un premier temps, c'est le principe de la désinformation. C'est ça déjà réussir à avoir ce qui est vrai du faux et ensuite s'informer réellement pour mieux comprendre. Donc on va peut-être se quitter
sur notre information. L'information, c'est vrai que je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est aussi aux enseignants aussi de faire un travail pédagogique envers leurs élèves, s'ils peuvent le faire, en tout cas les enseignants de terminale, si je me souviens il y a bien longtemps, en terminale, mon prof d'histoire, on a abordé la question, en tout cas, des guerres israélo-arabes, hein, comme on pouvait les appeler avant, et dit, si on commence pas, en tout cas, à Abraham, on pourra pas comprendre la situation aujourd'hui. Donc, bien expliquer, c'est vrai qu'avec le temps, on va dire le souci, le problème, en tout cas, a commencé, entre guillemets, hein, je dis bien, pour bien comprendre. Alors, c'est vrai que si on en est où, le Hamas envoie des roquettes et depuis l'armée israélienne réagit, si on réduit ça, le problème de la Palestine et ce qui se passe aujourd'hui, c'est dramatique. Donc il y a vraiment un travail pédagogique à faire autour de cela. Je voudrais revenir en tout cas sur les actions qui se font de citoyens français qui vivent en tout cas ici au nord et autour de Roubaix, qui organisent quelques actions pour aider le peuple palestinien. Donc une vente, une collecte d'argent qui se fait à l'association Culture et Génération. C'est 22 rue Ampère à Roubaix. C'est de 13h30 à 17h et c'est dès demain. Saint-Lenoble, près de Douai, l'association excusez-moi, un week-end de solidarité au cœur de la Palestine. Et c'est du 23 au 25 janvier, en somme deux jours, avec un tournoi de football, il y aura pas mal de choses, projection de films, une conférence de dialogue interreligieux, un numéro de téléphone pour cette information, c'est le 06 18 72 36 10, 06 18 72 36 10, Inch'Allah, nous reviendrons sur cette information. Il est 21h58, restez sur les ondes de Pastel FM, l'émission qui va suivre, l'émission Safina, donc avec JMF, Sassex en Tourcoing, pour les amoureux du chant religieux. Baraklofik, ou Fikoum, restez.
Merci.
Et Baraklofik, Taïf Chouer. On rappelle nos interventions avec Taïeb, tu interviens, Inch'Allah, en tout cas, une fois par mois.
C'est ça, voilà, le troisième vendredi du mois en principe.
Voilà. Parce que ce mois-ci il y a 5 vendredis.
Voilà, donc
voilà. Mais Inch'Allah, on casera, il y a Hassan qui interviendra, à mon avis, les deux derniers vendredis.
La semaine prochaine, c'est la conférence en direct.
Ouais. En direct. Et donc, on rappelle aussi nos intervenants, donc Ahmed Mikhtar le premier vendredi du mois, et aussi Hamza Gharbi qui intervient sur les ondes de passer. Il y a Hamza qui voudrait intervenir peut-être.
Oui, non, je reviens sur ce que vous avez dit. Continuez à faire des doigts par rapport à ce qui se passe. On fait des doigts pour les martyrs qui sont partis pour l'éternité. Et ça, c'est important de le rappeler. Et continuez à manifester. Il est très important de manifester. Et c'est un marathon plus qu'une course de sprint. Donc pensez à du long terme. Il y a des gens qui manifestent pour la Palestine depuis 1978. Et c'est les mêmes qui manifestent aujourd'hui. Et n'oubliez pas aussi, il y a d'autres frères et des sœurs qui, au Bangladesh, en Afrique, et partout dans le monde, souffrent et ils ont besoin de votre aide. Barakallahu fekoum, je remercie les intervenants.
Barakallahu fekoum, Hamza, donc on va se quitter dans une petite minute. Et je voudrais vous rappeler une petite information. Notre invité d'aujourd'hui, Taïeb Chouref, qui n'a pas très longtemps à... nous a offert deux magnifiques ouvrages et donc ils sont en vente aujourd'hui qui traitent sur les enseignements spirituels du prophète. C'est bien ça, Taïeb? Donc ils sont disponibles dans les librairies.
Disponibles en librairie, au Furet, je crois.
Au Furet, oui, également. Voilà. Voilà, deux ouvrages
sur Amazon, pour ceux qui sont un peu loin des librairies.
On peut se les procurer sur l'aide, donc deux ouvrages qu'on vous recommande vivement.
Les enseignements spirituels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De Taïeb Chouiref.
Voilà, c'est bien parfait.
Restez sur les ondes de Pastel FM, et ils sont Safina va suivre, Inch'Allah. Assalamu alaikum.
À la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.
لأجلك يا بهي